Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et alors, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, qui sera continuée avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Pour améliorer le partenariat stratégique, le président sud-coréen se rendra en Indonésie. La Papouasie et la Papouasie-Ouest ont la plus grande diversité linguistique en Indonésie. L'Indonésie possède plus de 700 langues locales. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, fera une visite d'État du 8 au 10 novembre à l'Indonésie. Le président Moon Jae-in est prévu pour rencontrer le président Joko Widodo le 9 novembre au Palais Bogor. Il sera la première visite à l'ASEAN et l'Indonésie depuis son investiture comme président. Le directeur de l'Asie de l'Est et du Pacifique du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Edi Yusuf, a déclaré qu'il montrait un engagement fort de la Corée du Sud pour renforcer la coopération avec l'Indonésie et l'ASEAN. Lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta jeudi 2 novembre, Edi Yusuf a expliqué que la réunion se concentrerait sur les efforts visant à accroître la coopération économique, les investissements, le commerce, les questions de protection des citoyens indonésiens et des questions régionaux et multilatéraux, comme par exemple dans la péninsule coréenne. La Corée du Sud est l'un des partenaires stratégiques de l'Indonésie à l'ASEAN, notamment dans les domaines de l'investissement et du commerce. Lors de la réunion, les deux dirigeants seront d'accord pour augmenter le partenariat stratégique à un niveau supérieur.
Jadi sebelumnya strategic partnership, kemudian akan ditingkatkan menjadi special strategic partnership.
Le partenariat stratégique sera renforcé d'être le partenariat stratégique spécial. Cela signifie que ce partenariat sera affiné en coopération concrète, principalement pour soutenir le programme d'industrialisation accélérée en Indonésie et élargissement de la coopération dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et la Corée, y compris dans le Pacifique Sud. Concernant la réunion entre les deux chefs d'État, il y aura trois protocoles d'accord à signer, y compris la coopération dans les domaines de l'industrie, le transport et les soins de la santé. En plus des réunions bilatérales avec le président Joko Widodo, le président Moon Jae-in tiendra un forum d'affaires le 9 novembre à Jakarta. Le forum d'affaires sera assisté par 300 hommes d'affaires, composé de 150 hommes d'affaires indonésiens et 150 hommes d'affaires coréens. Il est prévu qu'il y aura 10 mémorandums d'accord signés sur les affaires du forum. Le territoire de la Papouasie et la Papouasie-Ouest sont le territoire de l'Indonésie avec la plus grande variété de langues. Il y a plus de 300 langues parlées dans les communautés de ces régions. C'est ce qui a été exprimé par Hurib Danu Ismadi, le chef du Centre pour le développement et la protection des langues de l'Agence pour le développement et la protection des langues du ministère de l'Éducation et de la Culture dans l'entretien avec la Voix de l'Indonésie, mercredi 1er novembre 2017 à Jakarta.
Bahasa daerah ini kalau kita kelompokkan per pulau, ada pulau Sumatera.
Sinode grupong le langue locale par île, il y a ceux qui viennent de Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, et aussi dans la région orientale comme Papouasie, Nusa Tenggara, etc. avec la majorité des langues qui viennent de l'Est, notamment en Papouasie et en Papouasie d'Ouest. Il y a presque plus de 370 langues et en Papouasie et en Papouasie d'Ouest. C'est vrai qu'ils ont leur propre langue locale dans différents villages. Danu Ismadi a ajouté que pour la région occidentale de l'Indonésie, notamment la région de Sumatra, Java et Bali, le nombre de langues régionales n'est pas aussi nombreux que le nombre de langues régionales en Papouasie et Papouasie d'Ouest. Parce que les langues régionales qui existent dans la région de Sumatra, Java et Bali couvrent une très grande superficie, pas une petite zone comme des villages dans la région de Papouasie et Papouasie-Ouest. L'Indonésie est un pays riche en langues locales. Selon des recherches récentes, il existe plus de 700 langues locales provenant de diverses régions d'Indonésie. Ce nombre devrait continuer de croître parce que la recherche est en cours de se poursuivre. Ceci a été dit par le chef de l'Agence pour la protection et le développement des langues du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie, M. Ganjar Harimansyah, à la Voix de l'Indonésie récemment.
Sebenarnya bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak ya, bisa lebih dari 700. Tetapi menurut penelitian pemetaan bahasa
Indonesia, les langues locales en Indonésie sont si nombreuses. Il y aurait plus de 700. Mais selon une étude, la cartographie linguistique menée par l'Agence pour le développement linguistique jusqu'en octobre 2017, il y a déjà 652 langues locales qui ont été identifiées et validées. Bien sûr, il existe encore de nombreuses langues locales que nous n'avons pas identifiées, notamment à Nusa Tenggara Est, les Moluques du Nord, Papouasie et Papouasie-Ouest. Ganjar Harimansyah a ajouté que le nombre de langues locales identifiées en Indonésie devrait continuer à croître parce que l'Agence pour le développement linguistique du ministère de l'Éducation et de la Culture continue chaque année à faire des efforts de recherche ou identification suivis par la validation des langues locales qui existent dans toute l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie est l'un des centres d'études linguistiques pour les chercheurs ou apprenants en langue dans le monde, en particulier les Occidentaux. L'Indonésie a longtemps été un laboratoire pour les chercheurs et apprenants en langue du monde et ils ont produit des études intéressantes sur le langage. Cela a été dit par Johnny Endardi, le chef de la stratégie linguistique au Centre pour le développement de la stratégie et la diplomatie des langues du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie, qui a assisté à l'entretien spécial avec la Voix de l'Indonésie récemment à Jakarta.
Bahasa daerah ini menjadi laboratorium para peneliti-peneliti barat. Seperti Profesor Dr. James Tekoli.
Ces langues locales sont devenues un laboratoire pour les chercheurs occidentaux tels que le professeur Dr. James Tekoli et Ben Northover qui ont produit des études sur le photo malay javanique, le photo malayu et Adelar ont produit le photo melaik. Tous se sont passés en Indonésie comme le laboratoire. Eh bien, pourquoi nous ne nous soucions pas de notre langue locale, alors que l'Indonésie elle-même a été étudiée par de nombreux occidentaux. Johnny a ajouté que le Centre pour le développement de la stratégie et la diplomatie linguistique du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie continuera à mener des études sur les langues locales, notamment en Indonésie orientale, pour maintenir les valeurs et les normes existantes dans ces langues. Les pays du monde continuent de concurrencer dans divers secteurs en face aux défis des environnements stratégiques. Pour faire face à ces défis mondiaux, le peuple indonésien a besoin de sensibiliser avec la même détermination à travers des valeurs de nationalisme. Cela a été exprimé par le ministère de la Défense de l'Indonésie, M. Riamizat Yakudu, lors de la réunion nationale des ulémas, de pensionnats islamiques et des boursiers de presse nationaliste à pensionnat islamique Al-Hikam Depok, Java West, récemment. Le peuple indonésien a besoin de l'esprit et de la conscience nationaliste au phénomène rapide de maintien de l'existence de nations dans une nouvelle époque de mondialisation. La nouvelle ère de la mondialisation que je veux dire ici est une conséquence logique du modèle de changement en raison du processus de modernisation plein de la structure de la concurrence économique entre les nations et interdépendants les uns avec les autres. Le ministre de la Défense, M. Riamizat Yakudu, a également déclaré que la dynamique de la concurrence mondiale peut affecter les systèmes politiques, juridiques et culturels, même l'idéologie de la nation. Par conséquent, le ministre de la Défense a demandé à la nation indonésienne d'être en mesure de concurrencer dans l'arène mondiale afin que l'existence de l'Indonésie puisse être maintenue. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et en titre « La visite d'Aung San Suu Kyi à Rakhine ». La dirigeante de facto du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a visité l'état de Rakhine hier, jeudi 2 novembre 2017. C'était sa première visite depuis que la région habitée par l'ethnie musulmane Rohingya était secouée par un conflit en août dernier. Plusieurs 600 000 musulmans Rohingyas ont été contraints de fuir principalement vers le pays voisin Bangladesh en raison du conflit. Les Nations Unies et l'Organisation internationale des droits de l'homme voient des preuves de nettoyage ethnique à Rakhine. Ils disent que des centaines de musulmans de Rohingyas sont tués et que la majorité des Rohingyas sont chassés de leur patrie en brûlant leur maison, des viols et des meurtres. Au lieu de cela, le gouvernement du Myanmar a déclaré qu'il luttait contre les terroristes Rohingyas qui ont lancé des attaques contre des postes de sécurité et en ont tué des dizaines. Avec une garde serrée, Aung San Suu Kyi a visité Maundao, la région la plus touchée par la violence. Là, le lauréat du prix Nobel de la paix a rencontré des religieux musulmans. Selon l'agence de presse AFP, il y a 3 messages que Suu Kyi leur a dit. Ils doivent vivre en paix, le gouvernement les aidera et ils ne devraient pas se battre les uns et les autres. Depuis que son parti a remporté les élections de 2015, Suu Kyi est de facto à la tête du gouvernement birman, dont les pouvoirs sont limités par la constitution créée par l'ancienne junte militaire. L'armée a un droit de veto sur la loi contrôlant plusieurs ministères stratégiques, la sécurité et la défense. L'armée opère à Rakhine et Aung San Suu Kyi n'a aucun pouvoir pour l'arrêter. Avec des pouvoirs limités, Suu Kyi fait face à la critique internationale. En tant que combattant pour la démocratie, elle a été considérée comme lente à répondre aux violations des droits de l'homme à Rakhine. D'un autre côté, il sera également confronté à l'opposition de la majorité des Birmans, celle des Fang, les Rohingyas. La plupart des résidents birmans sont d'accord avec l'affirmation de son gouvernement selon laquelle les Rohingya ne sont pas originaires du Myanmar, mais des immigrants illégaux du Bangladesh. En fait, bien que cela puisse être vrai du Bangladesh, ils y ont vécu pendant des générations et le nombre a atteint plus de 1,5 million de personnes. La visite d'Aung San Suu Kyi à Rakhine devrait être suivie d'un arrêt de la violence contre les Rohingyas. Jusqu'à présent, les flux de réfugiés Rohingyas continuent de couler, même si ce n'est pas aussi nombreux qu'avant. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'armée birmane, en dehors de sa coopération avec le gouvernement civil, de surmonter de cette crise humanitaire. Au nom de l'humanité, l'armée du Myanmar doit protéger les Rohingyas au Myanmar. Ils ne veulent certainement pas que la tension des terroristes internationaux mène au Myanmar et cause de nouveaux problèmes là-bas. Les pays qui sortent des sanctions économiques devraient être en mesure de résoudre les problèmes internes susceptibles d'entraver les investissements en cours et les transitions démocratiques. Cher ami, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Le 3 novembre 1935, le roi grec Gorgios II était de retour sur le trône. Gorgios II, roi d'Hellénie, 20 juillet 1890, au 1er avril 1947, était le roi de Grèce qui a régné dans la période de 1922 à 1924 et de 1935 à 1947. Il a monté sur le trône pour succéder à son père le 27 septembre 1922 et s'est retiré à la demande du Conseil national à la fin de 1923 et il s'est retiré en Roumanie. Il a été officiellement retiré du trône comme la deuxième république hellénique a été proclamée le 25 mars 1924. Le 3 novembre 1935, il revient au trône après un coup d'état militaire renversant le régime de la République. Le 3 novembre 1936, Franklin Delano Roosevelt a été réélu comme président des États-Unis. Franklin Delano Roosevelt a occupé le poste de président en 1933. À cette époque-là, les États-Unis ont connu la période pire de dépression. Plus de 13 millions d'Américains n'avaient pas d'emploi et la structure bancaire était incertaine. En 1936, à l'année de l'élection présidentielle, la révolution économique et sociale pacifique lancée par le président Roosevelt avait permis la restauration et la reconstruction de certaines parties des États-Unis. Ainsi, le 3 novembre 1936, Roosevelt était réélu président des États-Unis avec un très grand nombre de votes. Le 3 novembre 1978, la Dominique est devenue indépendante du Royaume-Uni. Le Commonwealth de la Dominique est une nation insulaire des Caraïbes. Les États membres du Commonwealth situés dans la grappe à l'est de la mer des Caraïbes sont encadrés par deux autres petits États insulaires, à savoir la Guadeloupe et la Martinique. En 1493, ce pays a été contesté par le Royaume-Uni et la France. En 1896, la Grande Bretagne a repris le contrôle du gouvernement dominicain et en a fait une colonie de la couronne. Un demi-siècle plus tard, entre 1958-1962, la Dominique est devenue une province éphémère de la Fédération des Indes occidentales. Le 3 novembre 1978, la Dominique est finalement devenue un État indépendant. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. L'Indonésie rejette à reconnaître l'indépendance de la Catalogne. La Catalogne a déclaré une échappée de l'Espagne et a déclaré son indépendance. Comme l'a annoncé l'agence de presse française AFP, la Catalogne a déclaré son indépendance le vendredi 27 octobre, heure locale. Il suit les résultats d'un vote tenu par les parlements régionaux. Sur un total de 135 membres du Parlement régional de Catalogne, 70 ont voté en faveur de la déclaration, 10 ont été rejetés et 2 se sont abstenus. D'autres députés de l'opposition ont boycotté le vote. En réponse de ce cas, beaucoup de pays ne reconnaissent pas l'indépendance de la Catalogne, y compris l'Indonésie. L'Allemagne, par exemple, a exprimé son soutien au gouvernement espagnol dans son différend avec les séparatistes en Catalogne. L'Allemagne a déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas la déclaration d'indépendance présentée par le Parlement de Catalogne. La même attitude a été exprimée par le président du Conseil de l'Europe, Donald Tusk, en déclarant que la déclaration d'indépendance de la Catalogne n'aurait pas d'impact sur les relations entre l'Espagne et l'Union européenne. Tusk insiste sur le fait que l'Espagne reste le seul porte-parole de l'Union européenne. Cependant, le vice-président Yusuf Kalla au bureau du vice-président à Jakarta, mardi 31 octobre, a souligné que le gouvernement de la République d'Indonésie ne reconnaîtra pas l'indépendance de la Catalogne de l'Espagne, déclarée unilatéralement. Yusuf Kalla considère la séparation de la Catalogne comme une affaire domestique de l'Espagne. La déclaration du vice-président Yusuf Kalla a encore souligné la position du gouvernement indonésien qui considérait la Catalogne comme faisant partie de l'Espagne et n'a pas soutenu le séparatisme repris après la consultation populaire du 1er octobre 2017. Précédemment, le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi avait publié une déclaration selon laquelle l'Indonésie ne reconnaîtrait pas l'indépendance de la Catalogne parce que la région fait partie du royaume d'Espagne. Le ministre Retno, cité de l'agence de presse Antara le samedi 28 octobre 2017, a dit que le gouvernement indonésien considère la Catalogne comme partie intégrante de l'Espagne. Chers amis, c'était la mise au point.
Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, fera une visite d'État du 8 au 10 novembre à l'Indonésie. Le président Moon Jae-in est prévu pour rencontrer le président Joko Widodo le 9 novembre au Palais Bogor. Il sera la première visite à l'ASEAN et à l'Indonésie depuis son investiture comme président. Le directeur de la Sud-Est et du Pacifique du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Edi Yusuf, a déclaré qu'il montrait un engagement fort de la Corée du Sud pour renforcer la coopération avec l'Indonésie et l'ASEAN. Lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta jeudi 2 novembre, Edi Yusuf a expliqué que la réunion se concentrerait sur les efforts visant à accroître la coopération économique, les investissements, le commerce, les questions de protection des citoyens indonésiens et des questions régionaux et multilatéraux, comme par exemple dans la péninsule coréenne. La Corée du Sud est l'un des partenaires stratégiques de l'Indonésie à l'ASEAN, notamment dans les domaines de l'investissement et du commerce. Lors de la réunion, les deux dirigeants seront d'accord pour augmenter le partenariat stratégique à un niveau supérieur.
Jadi sebelumnya strategic partnership, kemudian akan ditingkatkan menjadi special strategic partnership.
Le partenariat stratégique sera renforcé d'être le partenariat stratégique spécial. Cela signifie que ce partenariat sera affiné en coopération concrète, principalement pour soutenir le programme d'industrialisation accélérée en Indonésie et élargissement de la coopération dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et la Corée, y compris dans le Pacifique Sud. Concernant la réunion entre les deux chefs d'État, il y aura trois protocoles d'accord à signer, y compris la coopération dans les domaines de l'industrie, le transport et les soins de la santé. En plus des réunions bilatérales avec le président Joko Widodo, le président Moon Jae-in tiendra un forum d'affaires le 9 novembre à Jakarta. Le forum d'affaires sera assisté par 300 hommes d'affaires, composé de 150 hommes d'affaires indonésiens et 150 hommes d'affaires coréens. Il est prévu qu'il y aura 10 mémorandums d'accord signés sur les affaires du forum. Le territoire de la Papouasie et la Papouasie-Ouest sont le territoire de l'Indonésie avec la plus grande variété de langues. Il y a plus de 300 langues parlées dans les communautés de ces régions. C'est ce qui a été exprimé par Hurib Danu Ismadi, le chef du Centre pour le développement et la protection des langues de l'Agence pour le développement et la protection des langues du ministère de l'Éducation et de la Culture, dans l'entretien avec La Voix de l'Indonésie, mercredi 1er novembre 2017 à Jakarta.
Bahasa daerah ini kalau kita kelompokkan per pulau, ada pulau Sumatera.
Si nous regroupons les langues locales par île, il y a ceux qui viennent de Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, et aussi dans la région orientale comme Papouasie, Nusa Tenggara, etc., avec la majorité des langues qui viennent de l'Est, notamment en Papouasie et en Papouasie d'Ouest. Il y a presque plus de 370 langues, et en Papouasie et en Papouasie d'Ouest, c'est vrai qu'ils ont leur propre langue locale dans différents villages. Danu Ismadi a ajouté que pour la région occidentale de l'Indonésie, notamment la région de Sumatra, Java et Bali, le nombre de langues régionales n'est pas aussi nombreux que le nombre de langues régionales en Papouasie et Papouasie d'Ouest. Parce que les langues régionales qui existent dans la région de Sumatra, Java et Bali couvrent une très grande superficie, pas une petite zone comme des villages dans la région de Papouasie et Papouasie-Ouest. L'Indonésie est un pays riche en langues locales. Selon des recherches récentes, il existe plus de 700 langues locales provenant de diverses régions d'Indonésie. Ce nombre devrait continuer de croître parce que la recherche est en cours de se poursuivre. Ceci a été dit par le chef de l'Agence pour la protection et le développement des langues du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie, M. Ganjar Harimansyah, à La Voix de l'Indonésie récemment.
Sebenarnya bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak ya, bisa lebih dari 700. Tetapi menurut penelitian pemetaan bahasa
Ampe le langue locale en Indonésie sont si nombreuses. Il y aurait plus de 700. Mais selon une étude, la cartographie linguistique menée par l'Agence pour le développement linguistique jusqu'en octobre 2017, il y a déjà 652 langues locales qui ont été identifiées et validées. Bien sûr, il existe encore de nombreuses langues locales que nous n'avons pas identifiées, notamment à Nusa Tenggara Est, les Moluques du Nord, Papouasie et Papouasie Ouest. Ganjar Harimansyah a ajouté que le nombre de langues locales identifiées en Indonésie devrait continuer à croître parce que l'Agence pour le développement linguistique du ministère de l'Éducation et de la Culture continue chaque année à faire des efforts de recherche ou identification suivis par la validation des langues locales qui existent dans toute l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie est l'un des centres d'études linguistiques pour les chercheurs ou apprenants en langue dans le monde, en particulier les Occidentaux. L'Indonésie a longtemps été un laboratoire pour les chercheurs et apprenants en langue du monde et ils ont produit des études intéressantes sur le langage. Cela a été dit par Johnny Endardi, le chef de la stratégie linguistique au Centre pour le développement de la stratégie et la diplomatie des langues du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie, qui a assisté à l'entretien spécial avec la Voix de l'Indonésie récemment à Jakarta.
Bahasa daerah ini menjadi laboratorium para peneliti-peneliti barat. Seperti Profesor Dr. Jim Stickholm.
Ces langues locales sont devenues un laboratoire pour les chercheurs occidentaux tels que le professeur Dr. Jim Stickholm et Ben Northofer qui ont produit des études sur le photo malay javanique, le photo malayu et Adelar ont produit le photo melaik. Tout se sont passés en Indonésie comme le laboratoire. Eh bien, pourquoi nous ne nous soucions pas de notre langue locale, alors que l'Indonésie elle-même a été étudiée par de nombreux Occidentaux. Johnny a ajouté que le Centre pour le développement de la stratégie et la diplomatie linguistique du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie continuera à mener des études sur les langues locales, notamment en Indonésie orientale, pour maintenir les valeurs et les normes existantes dans ces langues. Les pays du monde continuent de concurrencer dans divers secteurs en face aux défis des environnements stratégiques. Pour faire face à ces défis mondiaux, le peuple indonésien a besoin de sensibiliser avec la même détermination à travers des valeurs de nationalisme. Cela a été exprimé par le ministère de la Défense de l'Indonésie, M. Riamizat Yakudu, lors de la réunion nationale des ulémas de pensionnats islamiques et des boursier de presse nationaliste à pensionnat islamique Al-Hikam Depok, Java West, récemment. Le peuple indonésien a besoin de l'esprit et de la conscience nationaliste au phénomène rapide du maintien de l'existence de nations dans une nouvelle époque de mondialisation. La nouvelle ère de la mondialisation que je veux dire ici est une conséquence logique du modèle de changement en raison du processus de modernisation plein de la structure de la concurrence économique entre les nations et interindépendants les uns avec les autres. Le ministre de la Défense, M. Riamizat Yakudu, a également déclaré que la dynamique de la concurrence mondiale peut affecter les systèmes politiques, juridiques et culturels, même l'idéologie de la nation. Par conséquent, le ministre de la Défense a demandé à la nation indonésienne d'être en mesure de concurrencer dans l'arène mondiale afin que l'existence de l'Indonésie puisse être maintenue. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voixdelindonésie.com. voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le village Tumbak. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Jusqu'à présent, seul le parc Marang Bunaken est une prima donna de tourisme à Sulawesi Nord, alors que Sulawesi Nord a encore de nombreuses destinations touristiques. Un paradis touristique qui n'est pas moins intéressant avec d'autres destinations touristiques est Tumbak. Le village Tumbak est situé au sous-district Posumaen, région Minahasa, du sud-est, environ 3 heures de route de la ville Manado. Le village Tumbak est caractérisé par un village avec des maisons alignées sur l'eau. Tumbak lui-même est un acronyme de plantes de mangrove qui couvre une superficie d'un hectare et domine la majeure partie du village Tumbak. Arrivé au village Tumbak, vous pouvez continuer votre voyage à l'île Tumbak en bateau. Les services de location de bateaux se trouvent souvent dans la jetée du village Tumbak. Les habitants du village Tumbak travaillent comme pêcheurs et opèrent le service de location de bateaux. Le lieu de l'île Tumbak n'est pas trop loin du quai. On ne prend que 10 minutes en utilisant un bateau de pêche pour se rendre à l'île Tumbak. L'île Tumbak est différente du village Tumbak. L'île Tumbak est inhabitée et a une superficie moins d'une hectare. Malgré petite, l'île Tumbak offre une variété d'activités de tourisme maritime en raison de sa beauté naturelle qui est encore très naturelle. L'île Tumbak a une colline. Du haut de cette colline, les visiteurs peuvent voir une étendue de mer bleue avec une grappe d'îles alignées dans les eaux sud-est de Sulawesi du Nord. En plus de la colline, l'île Tumbak a également des champs de savane qui n'ont pas été beaucoup touchés par les humains. Avec ses arbres luxuriants, ses savanes, l'île Tumbak est un endroit idéal pour ceux qui recherchent un endroit calme au milieu de l'île. Enrichi de nombreux points de plongée en apnée, l'île Tumbak est l'une des îles d'Indonésie qui offre des forfaits complets de tourisme maritime. En plus de la plongée en apnée, sur l'île Tumbak, les visiteurs peuvent également pêcher et plonger. Les paysages sous-marins de l'île Tumbak sont très attirants et attirent tant de touristes. Si vous voulez explorer la beauté de Tumbak, vous devez préparer le temps au moins 2 jours. En plus de la beauté sous-marine qui présente une variété d'espèces de poissons, vos yeux seront également choyés avec des beaux récifs coralliens colorés. En plus de profiter de la beauté sous-marine, vous pouvez profiter de la beauté naturelle des îles de sable blanc situées autour du village au-dessus de l'eau, comme l'île Baling-Baling et l'île Ponteng. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Couleur, un programme sur les informations actuelles.
L'Indonésie est actuellement l'un des pays producteurs de café du monde. Pour augmenter le potentiel du marché intérieur du café, plusieurs programmes ont été développés, tels que le renforcement des capacités pour les ressources humaines, telles que les baristas, ceux qui ont la tâche de faire et servir du café aux clients, rôtisseurs, procès de la torréfaction de café, les testeurs de goût, l'amélioration de la valeur ajoutée des grains de café à l'intérieur et l'amélioration de la qualité du café traité, en particulier des grains torréfiés, grâce à la maîtrise de la technologie de torréfaction. La ville de Bandung n'est pas en reste dans la tendance du développement du café dans le pays en organisant un événement annuel pour les amateurs de café, West Java Coffee Festival, WGCF 2017, soit Festival de Café de Java West 2017. Le sujet de l'Indonésie en couleur ce soir est Festival de Café de Java West 2017. L'événement prestigieux du Festival de Café de Java West s'est tenu pour la troisième fois à Bandung. L'événement qui a eu lieu du 3 au 5 novembre 2017 a été lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec le Bureau de plantation de la province Java West, les agriculteurs et les hommes d'affaires du Café de Java West. Situé au Plaza Trans Studio Mall Bandung, les visiteurs peuvent regarder des contenus intéressants à travers la collaboration des paysans du café de Java West et des cafés, l'exposition du café, conversation du café, Fair Trade and Coffee Business, WGCF of the Day et d'autres. Pendant le festival, les visiteurs peuvent goûter gratuitement du café original de Java West, le produit traité de barista de café à Java West. Le chargé d'affaires du directeur exécutif du Bureau de l'Industrie et du Commerce de Java West, Hening Widiatmoko, a déclaré que cette année, ce festival de café vient avec un raffinement du concept plus mature des années précédentes. Pour cela, il faut améliorer les différentes lignes, non seulement dans le secteur en aval, au niveau des agriculteurs ont été nécessaires des mesures pour améliorer la production résultant des meilleures variétés de café et de qualité. Du point de vue du marketing, le café de Java West peut également être plus facilement accessible par le marché, à l'intérieur et à l'étranger. L'activité du Festival de Café de Java West 2017 sera l'une des références des transactions des cafés originaux de Java West. Il est souhaitable que ce festival puisse éduquer la communauté et les parties prenantes au sujet de la production originale de café de Java West. Certains des cafés originaux de Java West qui ont pénétré les marchés d'exportation comprennent Café Gunung Tilu, Café Wanoja, MEIG Burangrang, Café Arjuna, Café Murbeng Puntang, Café Manglayang et Café Malabar. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs et auditrices de Service international de Radio République Indonésie à la Voix d'Indonésie, où que vous soyez, on se trouve encore dans la rubrique Magazine musical, un programme qui vous présente les chansons indonésiennes traditionnelles et modernes. Dans cette édition, nous vous présentons des chansons en langue d'Aceh, une province la plus à l'ouest de l'Indonésie. Pour commencer notre rencontre aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée « Selanga » présentée par Rafli. Bonne écoute. Cher ami, Solanga en langue d'Aceh signifie la fleur de Kenanga, une fleur qui est souvent identifiée avec de belles femmes. Cette chanson apporte le message que la beauté va sûrement disparaître. Cette chanson a conduit Rafli à sa popularité, en particulier à Aceh. Cet homme est né à Samadua, Aceh du Sud, en 1967. Il a grandi dans une famille d'artistes approfondissant la musique traditionnelle. Chers amis, écoutons une chanson intitulée Anak Yatim, chantée par Rafli.
Thank you. Hai Anu, jantung ayanda, ya dodo saya, lam ayo nija, sayang, sayang, jantung.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.